RFJ Info.
Le journal de Vincent Jacquat.
Bonsoir, on vous l'apprenait ce matin, le gouvernement jurassien veut réduire l'éclairage la nuit. La police jurassienne n'y voit pas d'objection. Le bureau de prévention des accidents, lui, est plus sceptique. Près d'un quart des jurassiens flirtent avec la pauvreté. Le gouvernement a présenté ce matin son premier rapport social et le canton se retrouve souvent dans le peloton de queue en comparaison nationale. Cette rencontre au sommet sur la glace du Voïbeau ce soir, le HC Ajoie, leader de Swiss League, accueille le HC La Chaux-de-Fonds, deuxième au classement. Et les hockeyeurs jurassiens pourraient s'assurer le titre de champion de la saison régulière. Du soleil encore ce soir et demain, un peu de givre à l'aube, puis passage à un temps très doux. La police cantonale ne voit pas d'objection à la réduction de certains éclairages. Des mesures pilotes annoncées hier soir par le département de l'environnement pour lutter contre la pollution lumineuse. Le bureau de prévention des accidents, le BPA, est plus dubitatif. Dans le Jura, une phase de test aura lieu jusqu'à la fin de l'année dans certains secteurs à Glovelier, à la Caquerelle et au col des Rangiers, au carrefour de la Sentinelle. Le commandant de la police cantonale jurassienne nous explique quel regard il porte sur la stratégie de réduction des émissions lumineuses. Damien Rera.
La police cantonale a été consultée pour l'établissement de ce projet et nous avons estimé que le compromis entre la protection de l'environnement et les besoins sécuritaires était acceptable.
C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de risque supplémentaire d'avoir un taux d'accident peut-être accru ?
Je ne pense pas, puisque l'éclairage sera maintenu sur les lieux avec des enjeux sécuritaires importants. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de risque accru suite à la mise en application de ce projet. C'est un compromis acceptable et si nous devions constater à certains endroits une augmentation des accidents pour les automobilistes, pour les piétons, pour les cyclistes, alors nous tirerions rapidement la sonnette d'alarme et je suis convaincu que nous trouverions des solutions de compromis avec le département de l'environnement.
Le bureau de prévention des accidents est de son côté moins confiant, le porte-parole du BPA, Marc Kipfer.
Je peux vous dire ce que dit la science, et c'est que là où on met de l'éclairage, on a moins d'accidents, surtout en localité, mais aussi hors localité, et surtout en ce qui concerne les piétons. Nous connaissons des analyses où on a fait le contraire, alors là où on a mis de l'éclairage public où il n'existait pas encore, en moyenne, on a eu une réduction des accidents mortels de piétons de presque 80%. En dehors des villages, c'est vrai que les résultats scientifiques sont un peu moins clairs, mais on constate là aussi une réduction des accidents là où un éclairage a été installé. Mais notre conseil aux autorités est de bien éclairer au moins les intersections, les giratoires et les obstacles s'il y en a. Donc du point de vue de la sécurité, ce n'est pas un bon choix de supprimer l'éclairage en localité mais aussi hors localité.
Un dossier réalisé par François Comte et Alexandre Rosset. Entre 6 000 et 6 500 jurassiens sont en situation de pauvreté. C'est ce qu'indique le premier rapport social du canton présenté aujourd'hui. Il souligne également qu'un quart des jurassiens pourraient basculer dans la précarité. Certains des chiffres utilisés dans ce rapport ont déjà quelques années. Il n'empêche, le Jura se retrouve souvent en queue de peloton en comparaison nationale. Michel Léoni.
Si le rapport indique que les loyers moyens les moins chers du pays sont dans notre canton, il pointe aussi du doigt de nombreux indicateurs où le Jura est en queue de peloton. La ministre de l'Intérieur, Nathalie Barthoulot.
La comparaison intercantonale nous confirme quand même que le canton du Jura est effectivement toujours dans le dernier tiers et qu'en cela, il y a une fragilité de la population sur laquelle nous devrons travailler pour lui donner une plus forte assise.
Cette analyse se fait par exemple sur le marché du travail. Le Jura est l'avant-dernier canton en matière de taux d'activité. Il est avant-dernier en ce qui concerne le taux de chômage. Le niveau de fortune des jurassiens est également largement inférieur à la moyenne helvétique. Il y a 40% des citoyens de notre canton qui n'ont absolument aucune fortune déclarée, voire qui sont endettés. La moyenne helvétique se situe, elle, à moins de 25%.
La ministre de l'Intérieur, Nathalie Barthoulot, était l'invitée du journal de 12h15 pour commenter ce rapport. Un entretien que vous pouvez réécouter en intégralité sur rfj.ch. Avec le vieillissement de la population, on pourrait s'attendre à ce que le métier de soignant dans les EMS soit une profession d'avenir. Eh bien, détrompez-vous, une enquête du syndicat Unia montre que près de la moitié des soignants ne resteront pas à leur poste jusqu'à la retraite. De larges majorités disent être épuisées, souffrir de problèmes physiques à cause du travail, manquer de temps pour les résidents et ressentir des pressions. Unia réclame davantage de personnel et de moyens pour encadrer les résidents des EMS. Des salaires plus justes aussi, ce d'autant plus que la plupart du personnel soignant est féminin. Yolande Pesle, secrétaire syndicale à UNIA.
Les soins, c'est un métier typiquement féminin, bien sûr. Dans les EMS, 87% du personnel soignant et d'animation est féminin. C'est un peu les stéréotypes de genre qui font que les femmes sont très présentes dans les EMS. Et qui dit beaucoup de femmes dit des salaires plus bas parce qu'on sait que les métiers typiquement féminins sont moins bien payés que les métiers dits typiquement masculins.
La population étrangère vivant en Suisse a augmenté en un an. En 2018, ce sont un peu plus de 140 000 personnes qui ont immigré en Suisse. Le nombre d'étrangers résidant sur le sol helvétique s'élevait ainsi à plus de 2 millions à la fin de l'année dernière. Les Italiens restent la communauté étrangère la plus importante du pays, suivie par les Allemands et les Portugais. Aux États-Unis, c'est une bataille féroce qui s'ouvre. Donald Trump a finalement déclenché l'état d'urgence, une procédure exceptionnelle qui doit lui permettre de construire son mur à la frontière mexicaine. Le président américain avait pourtant accepté le compromis du Congrès qui lui accordait un peu plus de 1 milliard de dollars pour une clôture. L'état de New York a d'ores et déjà déclaré qu'il allait lutter contre cette mesure devant les tribunaux. Un geste qui pourrait apaiser les tensions entre la France et l'Italie. L'Élysée a renvoyé aujourd'hui à Rome son ambassadeur. C'est ce qu'a annoncé la ministre française des Affaires européennes sur la radio RTL. La France avait rappelé la semaine dernière Christian Masset après des attaques de dirigeants populistes italiens contre le président français Emmanuel Macron. La Chaux-de-Fonds en noir et blanc, mais aussi en couleur. La huitième nuit de la photo a lieu demain dans divers lieux de la métropole horlogère. La manifestation commence à 17h avec une conférence au Club 44. L'institution accueille également la présentation d'un travail de David Marchon. Le photographe a suivi pendant un an Elsa, une petite fille atteinte d'une maladie orpheline, le syndrome du cri du chat. Lors de l'édition précédente de la nuit de la photo, David Marchon avait reçu une bourse de 5000 francs pour ce reportage, un prix qui n'a pas influencé le travail.
J'ai eu une immense liberté du comité de la nuit de la photo. Ils m'ont juste donné une date et puis je devais juste représenter un diaporama. Mais après, ils ne m'ont pas du tout influencé dans la direction à prendre. J'avais été jugé juste sur 8 images et puis sur ces 8 images, ils m'ont fait une petite critique. Mais après, moi, j'avais une liberté absolument totale sur le reportage. Et puis, heureusement, parce que c'est quelque chose de très personnel, c'est une rencontre donc, entre moi, Elsa, ses parents, ses physios, etc. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un d'extérieur d'influencer une rencontre, en fait. Donc, j'ai eu une liberté totale.
Le travail de David Marchand fait également l'objet d'un livre qui sera verni lors de la nuit de la photo.
RFJ, il est 18h08.
Sport. Une victoire suffirait ce soir au HC Ajoie pour s'assurer le titre de champion de la saison régulière de Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens reçoivent leur rival de la Chaux-de-Fonds pour un derby au sommet. Coup d'envoi à 19h45 au Voilbeux à Porrentruy. Il s'agit de l'avant-dernier match du championnat avant les play-offs. Presque une reprise pour le HCA qui n'a plus joué depuis 2 semaines. A l'inverse, les Neuchâtelois ont joué samedi et mardi dernier. Attention donc à la différence de rythme, prévient l'entraîneur à Joulot, Gary Chien.
C'est clair que la récupération, c'est une chose, mais le rythme en est une autre. Eux, ils ont 2 matchs dans les jambes, nous, on ne les a pas. On sait que les 10 premières minutes vont être compliquées. Il faut juste qu'on soit prêt mentalement pour éviter un piège ou éviter une baisse de régime dans le début de match. On a un plan de match, il faut le suivre. Déjà, un peu comme on a commencé le championnat, un peu comme on a commencé après des pauses, c'est qu'on focalise beaucoup sur ce premier tiers, puis on l'a en tête depuis déjà 10 jours, comme quoi que faut pas arriver après ces 10 ou 20 premières minutes puis se dire c'est normal, on n'a pas de rythme ou je sais pas quoi. Il faut l'éviter. Alors pour l'éviter, il faut déjà être en bon régime quand on commence le match puis les surprendre plutôt que d'être surpris. Ils peuvent sauver leur saison sur ces 2 matchs qui leur restent. Et nous, je pense que si on est à la maison, on a un avantage ce soir, il faut l'utiliser. Il ne faut pas parler de rythme puis être pessimiste sur l'idée qu'on n'a pas joué. Au contraire, on devrait être capable de gérer le début de match puis finir très fort.
HCA, HCC, derby à vivre en direct dès 19h30 sur RFJ avec Raphaël Chalvera et notre consultant Kiki Crétin. Un couac dans le recrutement du BC Boncourt. Arrivé il y a tout juste 2 semaines, l'Américain Isaiah Manderson a déjà été remercié par le club jurassien de Swiss Basketball League. L'intérieur n'a pas donné satisfaction sur ses 2 premiers matchs et a été libéré à l'issue de sa période d'essai. À l'heure où de nombreux outils techniques pour superviser un joueur, beaucoup se demandent comment un tel raté est encore possible. L'entraîneur du BCB, Romain Gaspo, assure pourtant que le joueur n'avait pas été recruté à la va-vite.
Oui, naturellement, on l'a vu jouer, on a vu des vidéos du joueur, parler avec lui, échanger avec ses agents. Voilà, ça arrive, hein, les mauvais coups, je crois que ça arrive à tous les clubs. On n'a pas enchaîné beaucoup à Boncourt jusqu'à aujourd'hui. Il fallait bien une première, malheureusement ça tombe sur lui. Encore une fois, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, parce qu'il y a le joueur qu'on voit sur vidéo, après il y a son intégration dans l'équipe, son intégration aussi sur le, j'ai envie de dire, le fond de jeu de l'équipe, la manière de jouer de l'équipe, c'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu sous-estimé le concernant. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et à cette période-là encore plus, parce que naturellement les très bons joueurs sont signés, les très bons rookies, joueurs sans expérience sont signés aussi. Il reste des joueurs, on va dire, soit qui ont connu des problèmes par le passé, qui n'ont peut-être pas réussi leurs premières expériences. Donc c'est naturellement toujours un petit peu plus risqué. La grosse différence, c'est certainement l'argent qu'on a à disposition pour signer des joueurs, parce que c'est peut-être là que ça se fait. Si on avait un budget un petit peu plus grand, on aurait certainement peut-être eu moins de surprises. Donc effectivement, cette période de la saison, c'est certainement un peu plus compliqué.
La direction n'a pas encore décidé si Isaiah Manderson serait remplacé. Elle attend pour se donner un délai de réflexion. La fin du suspense aux mondiaux de ski alpin de Åre en Suède, où la 2e manche du géant messieurs se tient en ce moment même. Après la 1re manche, Loïc Meillard est le meilleur Suisse. Il avait terminé 5e à 57 centièmes du podium. Le Français Alexis Pinturault tient la tête, 10 centièmes devant l'Autrichien. Marcel Hirscher est 18 centièmes devant le Norvégien Henrik Kristoffersen. Le Comité international olympique et les 2 Corées envisagent la participation d'équipes coréennes unifiées, une fusion dans 4 sports qui pourrait être effective aux JO de Tokyo en 2020. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le CIO. Les sports concernés sont le basketball, le hockey sur gazon, le judo et l'aviron.
Maintien d'un temps sec ce soir et cette nuit, un ciel dégagé également. Demain matin, les nuages seront plus que discrets et ils se dissiperont rapidement. La journée sera bien ensoleillée, en pleine comme sur les hauteurs. Les températures seront chaudes pour la saison. À l'aube, elles oscilleront entre moins 3 et 3 degrés. Au meilleur de la journée, il fera 12 degrés à Moutier, 14 à Delémont et Porrentruy et 18 degrés à Seignelégier. Il va falloir sortir les sombreros du côté des Franches-Montagnes.